Nous étudions ce livre de la Genèse depuis quelque temps et c'est l'histoire de Joseph qui occupe la plus grande place dans ce premier livre de la Bible. 14 chapitres en tout sont consacrés au récit de Joseph, c'est encore plus qu'Abraham. C'est pour dire à quel point c'est une histoire fondamentale, merveilleuse, pour nous aider à comprendre les voies de Dieu et même pour nous aider à comprendre l'évangile que nous croyons. Et ce chapitre 45, c'est vraiment la meilleure partie de l'histoire. Les frères, ils sont là, ils pensent être sur le banc des accusés devant un juge impitoyable. Ils savent que toutes les preuves sont alignées contre eux. Et puis, dans l'espace d'un instant, tout bascule et cela devient l'ultime réunion de famille, les plus beaux retrouvailles inimaginables. C'est-à-dire, sur une parole de Joseph, leur pire ennemi devient leur meilleur ami. Et on peut dire que c'est le cas de tout chrétien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on se mette à la place des frères. Et je pense que la Bible nous y invite à le faire. Dans le Nouveau Testament, une des premières prédications chrétiennes, c'était apportée par Étienne. Et il se trouvait un jour devant les autorités juives de Jérusalem, peu après la mort de Jésus. Et il les interpelle en disant, « Vous connaissez notre histoire, vous connaissez les histoires de la Bible, eh bien, tout comme nos ancêtres, les frères de Joseph, tout comme nos ancêtres ont rejeté Joseph, eh bien, vous avez aussi rejeté l'envoyé de Dieu, vous avez rejeté Jésus, vous l'avez crucifié, mais... il est revenu à la vie, il est ressuscité, il est plein de gloire, je le vois, en gloire. Prenez-le, acceptez-le, il est là pour nous sauver encore aujourd'hui. » Donc, Étienne interpelle ses contemporains avec l'histoire de Joseph en disant, c'est comme nous aujourd'hui. Ah ben, avec Étienne, ils n'ont pas trouvé mieux que de lapider, parce qu'ils ont rejeté, voulaient rejeter, mais... Ils auraient pu vivre aussi, eux, une réunion de famille, des retrouvailles avec Jésus, leur frère, avec Jésus, le Sauveur. Alors, c'est ce que nous voulons faire, en quelque sorte, ce matin. Devenir chrétien, d'après la Bible, c'est lorsque Jésus, après nous y avoir préparé, c'est lorsque Jésus se révèle, se fait connaître à nous. Il parle notre langage de cœur, et il dit, c'est moi. C'est moi que tu cherches depuis tout ce temps, c'est moi que tu as rejeté, c'est moi que tu as persécuté, mais c'est moi qui veux encore prendre soin de toi, qui veux te sauver, qui va t'apporter une grande délivrance. C'est ça, devenir chrétien, c'est lorsque Jésus se révèle à nous. Et ce Dieu qui nous paraissait étranger, lointain, sévère, un juge impitoyable, eh bien, on découvre qu'il fait de nous ses frères, il fait de nous sa famille et devient notre meilleur ami. Et le projet de Joseph dans ce chapitre, c'est de convaincre ses frères de ne pas s'inquiéter du passé et de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Et ça, c'est merveilleux. À la différence des autres religions, ce que l'Évangile vous propose encore ce matin, de pouvoir regarder notre passé sans aucun regret et de pouvoir regarder notre avenir sans aucune inquiétude. De regarder le passé sans aucun regret serait merveilleux. Et de regarder l'avenir sans aucune inquiétude. Imaginez quel genre de personne on sera si, justement, on n'avait aucun regret sur le passé, aucune crainte sur l'avenir. Vous avez eu l'occasion peut-être de voir ce film sympa qui est sorti récemment, La Vache. En plus, c'est notre quartier, c'est notre station de métro, donc on peut en parler. La Vache. Et c'est l'histoire de ce paysan algérien qui promène sa vache Jacqueline à travers la France pour aller au salon de l'agriculture. Et en chemin, il rencontre un Français. Il faut dire que c'est vraiment un Français de chez les Français. Il s'appelle d'ailleurs Philippe Baudreuil de Cuverville. C'est un aristocrate. Il habite là, au milieu de la France. Mais justement, il a plein de problèmes. Plein de problèmes personnels, des soucis d'argent. Il est dépressif, il prend des cachets, il est divorcé. Et quelque part, il incarne bien notre époque, le malaise moderne occidental, où on a beaucoup d'avantages, beaucoup de richesses, mais il y a cette crainte, cette inquiétude, cette déprime, et culturellement, face à ce paysan algérien, ça ressort assez fort. Donc je pense que encore le message de la Bible qui veut nous rassurer, aucun regret du passé, aucune crainte pour l'avenir, ça peut parler encore aux Français, à l'homme moderne qui cherche cette rassurance. Et j'ai retenu quelques paroles de Joseph ce matin, qu'il a dit à ses frères, je pense que Jésus nous les dit aussi, pour nous rassurer. Tout d'abord, Joseph dit à ses frères, approchez-vous. Ensuite, il leur dit, surtout ne vous tourmentez pas du passé. Ensuite, il leur dit, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Et enfin, par Pharaon et par ses frères, il va dire à Jacob, ne restez pas le cœur froid. Voilà ce que la manière que Dieu pourrait encore nous interpeller ce matin. Approchez-vous, ne vous tourmentez pas du passé, ne vous inquiétez pas de l'avenir et ne restez pas le cœur froid. Tout d'abord, dans les premiers versets, c'est l'appel de Joseph à ses frères, notamment verset 4, « Approchez-vous de moi ». Rappelez-vous le décor, le cadre, la pièce dans laquelle il se trouve peut-être. Vous avez certainement vu suffisamment de dessins égyptiens des pharaons, ne serait-ce chez Astérix et Cléopâtre, pour imaginer la scène de la royauté égyptienne. Certainement, Joseph est assis sur un trône ou un dé élevé. Il y avait peut-être ses serviteurs qui tenaient les palmiers, qui faisaient la clim de l'époque, tout ça. En tout cas, on sait qu'il est là, en haut, bénéficiant des privilèges de la royauté. Et ses frères sont là, en bas, ils doivent se prosterner chaque fois qu'ils entrent. Et normalement, dans un tel contexte, on ne monte pas sur les marches, on ne monte pas sur le trône, on ne se met pas au même niveau que du roi. Dans bien des cultures, de faire une telle chose, on risquait la mort d'approcher ainsi au roi. Puis non seulement il y a cette distance liée au rang, mais en plus de ça, Joseph, jusqu'à là, leur parlait à travers un interprète. Lui, il parle égyptien, eux, il parle hébreu. Et il fait semblant d'avoir besoin d'un interprète, ce qui crée aussi une distance. Il y a un intermédiaire, ils ne peuvent pas vraiment s'adresser à Joseph, c'est toujours à travers un interprète. Et là, Joseph, il fait sortir tout le monde, tous les serviteurs, il est tout seul. Et il dit, approchez-vous, je suis Joseph. Alors, soit c'est Joseph lui-même qui descend les marches du trône ou l'invite des frères à monter. En tout cas, il se jette au cou, dit le verset. Et vous savez, depuis la mort et la résurrection de Jésus, c'est vraiment l'appel de la Bible à chacun de nous. Approchez-vous, Dieu, c'est ce que Dieu dit. Approchez-vous, vous pouvez vous approcher. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'obstacles qui gardent Dieu lointain. Et c'est cette conception de Dieu qui change dans l'Évangile, c'est qu'on n'est plus devant un tribunal, on n'est plus au tribunal lorsqu'on rencontre Dieu, on est dans une réunion de famille. Et c'est merveilleux. Il y a une célèbre photo dans les années 60 du président Kennedy, il est dans le fameux bureau ovale de la Maison Blanche. Puis dans la photo, on le voit, il travaille à son bureau, c'est le président des États-Unis. Mais il y a son fils, petit-fils de 4, 5, 6 ans, qui est là, qui joue à ses pieds, sous le bureau, qui s'amuse à ouvrir les tiroirs. Et le fils, l'insouciance totale, le sourire au visage. Le seul qui puisse s'approcher ainsi du président, jouer autour de lui, dans une telle insouciance, le sourire au visage, sans aucun stress, bien c'est un membre de la famille, c'est un fils. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre avec lui. Chaque chrétien a un accès direct à Dieu, pas besoin d'interprète, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de rites et de protocoles. Vous avez peut-être remarqué que dans le culte évangélique, il y a une certaine absence de formalisme et de rites. C'est parce que nous vivons ces retrouvailles avec notre frère Jésus. C'est que nous sommes en réunion de famille avec notre Père Céleste. Je trouverais bizarre, je pense vous aussi, si un de mes enfants ou plusieurs de mes enfants entraient dans mon bureau en reculant ou dans la position, par exemple, de la prière musulmane, avec un encensoir, pour répéter 5 fois par jour, « Ô Père miséricordieux, dans votre grande clémence, puissions manger des pâtes ce soir. » Je me dirais, soit ils ont fait une bêtise et ils veulent cacher ça, et ils jouent du théâtre, soit ils se moquent de moi, soit ils ne me connaissent pas du tout. Et souvent les religions, en fait, c'est la raison d'être. C'est que, voilà, on veut peut-être occulter d'autres choses qui nous culpabilisent et qui nous empêchent de s'approcher du Père Céleste, de Dieu. Ou bien on ne connaît pas du tout ce Père Céleste, donc on pense que ces rites et ce formalisme lui plaisent, mais à cette heure, pour Joseph et ses frères, justement, ce n'était pas l'heure du formalisme. Ils disaient, approchez-vous de moi. C'est le grand appel de l'Évangile. Ensuite, dans les versets suivants, ce deuxième point, Joseph veut les rassurer en disant, ne vous tourmentez pas du passé. C'est vrai, jusque-là, dans les chapitres précédents, Joseph, le projet de Joseph, c'était de troubler les consciences. C'était de les affliger, c'était de les éprouver en tout cas. C'était de les convaincre de péché, de justice, de jugement. Et Dieu fait ça pour nous aussi. Il utilise sa loi, notamment, pour éveiller notre conscience, pour nous rappeler nos fautes, nos péchés. Et on a vu ça la semaine dernière. La valeur d'une conscience, même troublée, mais qui peut trouver le pardon par la repentance. Donc c'était le projet de Joseph jusque-là. Mais maintenant, à partir de ce moment, en chapitre 45, à partir du moment où il voit le changement de cœur des frères, eh bien, son seul but, c'est de les rassurer. Et Joseph, il veut que ses frères vivent le reste de leur vie dans l'assurance du pardon. C'est ce qu'il dit en verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas, littéralement. Ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Alors, comment Joseph va les rassurer, va les inviter à ne pas se tourmenter du passé, même qu'ils ont fait des erreurs, des choses graves? Eh bien, il leur offre une réflexion qui est très forte. Il dit, ne vous soyez fâchés, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et 3 fois dans ce passage, il répète, c'est Dieu qui m'a envoyé ici en Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a établi. Maintenant, je vous pose la question, par quel moyen Dieu a-t-il envoyé Joseph en Égypte? Le moyen que Dieu a utilisé pour envoyer Joseph en Égypte, c'était le mal, le péché des frères. Et Joseph, il peut être sans rancune parce qu'il voit la main souveraine de Dieu dans tout ça. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et c'est quand même fort, il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Dans un sens, oui, ce sont ses frères qui l'ont envoyé et vendu en esclave en Égypte. Mais Joseph voit plus loin, c'est Dieu qui a fait ça. Je dirais que là, nous avons un des grands secrets du pardon, de pouvoir ne pas être esclave du passé. C'est dans la Bible, le mal qu'on fait, que nous faisons, ou le mal qui nous est fait, ce mal même fait partie du plan global de Dieu, puisque lui, il a un bien final en tête, et il sait prendre tout le mal des hommes, inexcusable, mais il sait prendre ce mal pour l'utiliser en bien. Et n'est-ce pas ce que nous devons vivre avec Jésus quand on pense à la croix? C'est vrai, c'est le péché de l'humanité, mais c'est aussi mon péché qui a envoyé Jésus à la croix. Et ça me désole, ça me dégoûte parfois. Et chacun, on devrait dire, ah, c'est dramatique, c'est mon péché qui a envoyé Jésus à la croix. Mais derrière ça, il y avait Dieu qui a envoyé Jésus à la croix, vous savez. Et s'il n'y avait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Et s'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas le BTM, il n'y aurait pas les beaux cantiques qu'on a chantés ce matin, il n'y aurait pas toutes ces amitiés ici, je n'aurais jamais rencontré mon épouse et tout ça. On peut aller loin dans cette réflexion. Donc c'est Dieu qui nous conduit nos vies, même mon péché. il a géré, il a su transformer le mal en bien par la croix. Le péché est un mal et Dieu doit juger. Mais en envoyant Jésus, il gère ce mal pour qu'il devienne un bien et que la croix devienne source de salut. Donc oui, Jésus veut qu'on soit un repentant et humble toute la vie, mais pas tourmenté et tracassé en permanence de notre passé. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se pardonner. On en parle souvent de nos jours, arriver à se pardonner. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se pardonner des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'imposer peut-être des années de déprime ou bien une pression de réussir pour se racheter. Mais cette démarche-là, souvent, ça pourrit la vie, ça pourrit les relations autour de nous. Et ce n'est pas la voie de, c'est pas la voie de Joseph, ce n'est pas la voie de l'Évangile. Joseph peut rassurer ses frères, ne vous tracassez pas, ne vous tourmentez pas, ne vous soyez pas fâchés des choses, du mal que vous m'avez fait, parce que Dieu était derrière tout ça. Et moi, j'ai complètement pardonné. Alors les frères, ils peuvent vivre cette liberté énorme de ne pas, pas se culpabiliser du passé. Ce que les frères et Joseph ont vécu, c'est tout ce chemin qui a conduit Joseph en Égypte, c'était la voie de Dieu, ce n'était pas un plan B. Il me semble que ces jours-ci en politique, on parle un peu du plan B, certains candidats peut-être. Mais justement, vous n'êtes pas un plan B de Dieu. Même votre péché n'est pas un plan B de Dieu. Mais la croix n'est pas un plan B de Dieu. Les problèmes, les épreuves que nous traversons, tout ça, ce n'est pas un plan B. Tout ça, c'est le plan d'origine, le plan A, le plan merveilleux, le plan parfait. Et ça nous libère énormément du poids du passé. Ensuite, Joseph veut rassurer ses frères. Avec cette réflexion, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Ça, c'est dans les versets suivants, les versets 9 à 24. C'est vraiment le message dominant. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. En gros, il leur dit, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter de rien. Je suis gouverneur de tout le pays. Je suis le père de Pharaon, c'est une expression pour... Voilà, le premier ministre, en quelque sorte, il est élevé en gloire. Et donc, Joseph dit, c'est moi qui gère tout. Je gère, je distribue les blés. Je vais pouvoir vous nourrir. Je vais vous nourrir, je vais vous loger. Vous êtes pris en charge des allocations, sécurité sociale, retraite, logement de fonction, un CDI de berger. En plus, CDI de berger, de fonctionnaire, parce que les Égyptiens, ils n'aiment pas ce métier, ils n'aiment pas les bergers. Donc, vous allez garder les troupeaux de Pharaon. Donc, CDI fonctionnaire. Alors là, c'est le rêve français. Même en temps de crise, là, il y a encore 5 années de crise, et vous aurez le rêve français. Je vais vous donner ce qui est de meilleur. Il dit ça 3 fois. Je vais vous donner ce qui est de meilleur. Je vais vous donner ce qui est de meilleur. Et tout ça, ce n'est pas des promesses de politiciens, ce n'est pas des promesses vaines. C'est de la part de quelqu'un qui a déjà tout le pouvoir et toute autorité. Il est prince d'Égypte, il est comme le roi. Joseph est l'homme le plus riche et le plus puissant de la planète à ce moment. Et vous savez, un tel personnage, il peut soit être votre pire ennemi, s'il décide de vous contrer, de vous embêter, ou il est votre meilleur ami s'il décide d'agir entièrement pour vous. Déjà, si vous avez un voisin qui veut vous embêter, ce n'est pas agréable. Mais il vaut mieux que ce soit un voisin que le président du pays ou que la plus haute autorité de la ville de là où vous habitez. Là, c'est pire. Mais si la plus haute autorité, c'est votre meilleur ami, c'est votre frère, là, c'est merveilleux. Donc, Joseph, on a vu, il passe, à leur point de vue, il est leur pire ennemi parce qu'il est tout puissant, il peut les embêter à l'infini. Mais maintenant, il devient leur meilleur ami. C'est vrai pour nous aussi. En ce moment même, Jésus, il est votre pire ennemi ou il est votre meilleur ami. S'il est contre vous, c'est-à-dire si vous n'êtes pas réconcilié avec lui, s'il a des choses en compte, juge juste contre vous à régler, c'est votre plus grand souci dans cette vie et dans la suivante, et dans l'éternité. Mais s'il est votre frère, comme il a proposé d'être, comme est son appel, eh bien, vous êtes complètement pris en charge pour l'éternité. Il a dit en ressuscitant, il a dit, tout pouvoir et toute autorité m'a été donné. Et juste après être ressuscité, il a appelé ses disciples, son peuple, mes frères. Donc vous êtes mes frères, notamment à cause de ce que j'ai fait pour vous à la croix et par la résurrection. Et maintenant, tout pouvoir et toute autorité m'a été donné. Et je suis entièrement pour vous. Je vais prendre soin de vous. Et on a toutes ces promesses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans la manière que Jésus va prendre soin de nous, même jusqu'à la fin de nos jours, à travers la mort et pour l'éternité. Ça, c'est la promesse. Mais combien souvent on a besoin de se rappeler de ça en chemin? C'est ça le défi pour nous. Et Joseph, il donne à ses frères toutes ses rassurances, mais ils vont devoir quand même aller faire le chemin pour chercher le Père et revenir. Donc il y a ce temps de réflexion. Et il pourrait oublier un peu les promesses de Joseph. Alors il leur dit en verset 24, en congédiant ses frères, il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Alors c'est déjà un excellent conseil, mais en hébreu, le mot ne querellez pas, c'est plus ne tremblez pas. Donc ne vous agitez pas, on comprend pourquoi ils ont mis quereller. Mais littéralement, ne tremblez pas, ne vous laissez pas ébranler sur la route. Bien sûr, les deux choses ensemble, les deux choses vont bien ensemble, des inquiétudes et des querelles. Là où il y a des inquiétudes, il y a des querelles. Ça se voit clairement dans la vie de couple. La plupart des querelles et disputes viennent des inquiétudes au fond. On s'inquiète de devenir des enfants, on s'inquiète des finances, on s'inquiète de certaines décisions à prendre. Et quand il y a ces inquiétudes-là, ça crée des disputes. Donc effectivement, ce conseil, ne vous querellez pas en chemin, ou bien ne vous inquiétez pas, ne vous tremblez pas en chemin, ça se rapproche, c'est très proche. Mais ses frères vont faire le chemin et Joseph a peur qu'ils vont rebasculer dans des craintes. Mais est-ce que Joseph, vraiment, il est pour nous? Est-ce que vraiment il va prendre soin de nous? Est-ce que vraiment tout ce qu'on a vécu, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il ne pourrait pas, lui, avoir un changement d'attitude? Et puis là, il va nous embêter complètement. Mais Joseph les rassure, ne tremblez pas en chemin, ne vous inquiétez pas en chemin. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Et nous aussi, combien souvent nous avons, dans le chemin de la vie chrétienne, nous avons besoin de nous rappeler. C'est vrai que nous le savons, au fond, nous disons, nous chantons, Jésus est sur le trône, il est le roi de l'univers, on atteste ces choses, et puis dans la semaine, nous tremblons, nous nous inquiétons. Si vous étiez à la cellule cette semaine, on a étudié Philippiens et ce verset, ne vous inquiétez de rien. Et Paul doit dire ça aux chrétiens parce qu'il sait que nous nous inquiétons souvent. Mais c'est ce rappel, Joseph, ne vous inquiétez pas en chemin, je reste sur le trône et mes promesses restent vraies. Et puis dans cette rassurance concernant l'avenir, il y a même Pharaon qui se mêle. Et lui, il dit, bon, ça me plaît, toute cette réunion de famille, je suis pour, je vais vous faciliter la vie. Donc Pharaon lui-même dit, venez, on va vous accueillir merveilleusement. Et il dit, ne regrettez pas ce que vous laissez en arrière. Alors lui, même Pharaon, il pense, il dit on va envoyer des chars pour les femmes et pour les enfants. Et puis il y aura un prime pour échanger l'occasion pour du neuf ici en Égypte, c'est merveilleux. C'est vrai que la famille va devoir se confier à Joseph, quitter, laisser des choses derrière, ils ne peuvent pas tout prendre. Ils vont devoir laisser des choses en arrière pour se confier à Joseph dans cette nouvelle vie en Égypte. Et c'est vrai, hein, lorsqu'on remet notre avenir entre les mains de Jésus, il y a des choses qu'il faut laisser derrière pour le suivre. Peut-être des choses matérielles, mais pas tant comme Jacob et ses frères. C'est plutôt certains raisonnements ou certains éléments de notre identité, certaines attaches, certains appuis. On va devoir faire confiance à Jésus et quitter cette ancienne vie. Je pense notamment à Jacob. Quelque chose qui va être difficile pour lui, bien que ce soit heureux, qu'il découvre que son fils est vivant. Mais pour Jacob, pendant ses 20 ans, la perte de son fils est devenue pour lui presque son identité. Chaque fois qu'il parle, ça fait 20 ans, chaque fois qu'il parle dans la Bible, il parle de Joseph. Il pense à Joseph. Et il a vécu, le deuil c'est normal, mais chez Jacob on sent que c'est allé plus loin. C'était un deuil excessif et il reste attaché à cette perte d'un enfant. Et il ne peut pas vivre autre chose et il a un peu plongé dans sa tristesse. Ça, il va devoir laisser. Alors bien sûr, je pense qu'il va être content de voir Joseph, mais ça veut dire que toutes ces 20 ans, quelque part, cette partie de son identité, ce raisonnement, c'était faux. Il va devoir laisser ça. Il ne peut plus s'appuyer sur ça. Et c'est ça qui est fascinant. Parfois, même une souffrance, même une perte, on s'y accroche. Ça nous donne notre raison de vivre. Et lorsqu'on découvre Jésus, c'est plus ça notre identité, c'est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Mais comme Pharaon dit, tout ce que vous laissez en arrière, vous gagnez en échange. Donc il leur montre, vous aurez le meilleur du pays. Alors là encore pour nous, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Votre avenir éternel est pris en charge. Enfin, ne restez pas le cœur froid. Le chapitre termine ainsi. Ils viennent, ils remontent de l'Égypte et ils vont voir leur père Jacob et lui dire... Joseph vit encore, et c'est lui qui gouverne tout le pays. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Pourquoi il ne voulait pas les croire? Plusieurs raisons, mais déjà c'est trop bon pour être vrai. 20 ans de deuil, de tristesse, d'épreuve, et on vient de lui dire que tout ça c'est pas vrai. C'est le genre de choses qui arrivent dans les légendes et dans les films, mais pas dans la vraie vie, pas dans la réalité. Qu'est-ce qui a fini par la convaincre, Jacob? Eh bien, le verset 27 dit qu'ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et il vit les chars que Joseph avait enlevés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il avait devant ses yeux, il avait 11 témoins, qui reviennent avec des ânes, des ânesses chargées, des chars. Et ces 11 témoins, ces 11 frères, peuvent dire, « Papa, on l'a vu, on l'a touché, on a contemplé sa gloire, il nous a parlé, il est vivant, il est vraiment vivant. » À ce moment, Jacob aurait pu dire, « Mais attendez, pourquoi devrais-je vous croire? Si vous, ce que vous me dites là est vrai, c'est que vous m'avez menti il y a 20 ans. Donc vous êtes des menteurs, c'est ça? Alors que je devrais vous croire maintenant ou à l'époque? » Mais je pense que lui-même, dans la manière que ses frères parlent et véhiculent l'information, lui-même peut voir une transformation. Vous souvenez, il se doutait toutes ces années que les frères avaient été mêlés dans cette affaire de la mort de Joseph. Il s'est douté qu'il y avait un problème chez eux. Mais là, il peut voir, c'est différent. Il y a Benjamin qui est revenu sain et sauf. Benjamin qui était comme Joseph, le fils de la même mère. Donc, ils auraient pu encore, s'ils étaient dans la même attitude, ils auraient pu refaire la même chose à Benjamin. Mais Benjamin revient sain et sauf avec 300 cycles d'argent et 5 échanges de vêtements. Les autres avaient eu un échange de vêtements et c'est tout. Benjamin a eu 300 cycles d'argent et 5 échanges de vêtements. C'était un manteau qui avait rendu les frères si jaloux pour vouloir le tuer et la trouver. Maintenant, il y en a 5 chez le petit Benjamin. Mais plus de jalousie. C'est la joie, c'est la fête. Alors, cette transformation chez les frères, et puis 11 témoignages qui disent « on l'a vu, on l'a touché ». Il dit « ok, c'est assez. C'est assez. » Ça, il y a assez de preuves, et je suis convaincu. Joseph, mon fils, vit encore. En tout cas, je vais le croire et j'irai le voir. Son cœur n'est pas resté froid. Et devant l'appel de l'Évangile, devant les faits de l'Évangile, c'est aussi l'appel envers nous. Ne restez pas le cœur froid devant tout ça. C'est vrai que parfois, le message de l'Évangile avec des résurrections, la promesse de la vie éternelle, ça semble trop bon pour être vrai. Nous, comme Joseph, nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux. Mais nous avons le témoignage de 11 apôtres. 12 moins un Judas, mais encore il a été remplacé. Donc on va dire 11, 12 apôtres. Nous avons le témoignage de 12 apôtres. Et ils sont justement venus nous rapporter les paroles de Jésus. C'est ça la Bible, c'est ça le Nouveau Testament, c'est les témoins qui nous ont rapporté les paroles de Jésus et qui ont dit, qui peuvent encore nous dire, on l'a vu, on l'a touché, on a contemplé sa gloire. On peut vous dire, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Venez, venez, il va s'occuper de nous, il va nous aimer, il va nous prendre en charge. Venez, c'est l'appel de la Bible. Et si ça ne ranime pas votre cœur, si votre cœur reste encore froid à cela, pensez juste à ceci, c'est que Jésus, lui, il n'est pas resté le cœur froid envers nous. On a vu Joseph, une très grande émotion dans tout ce chapitre, d'abord les pleurs, puis la joie. Joseph aime tant ses frères et il aime se faire connaître à eux. Jésus n'est pas resté de la même manière le cœur froid envers nous, envers notre sort. Même les épreuves par lesquelles il nous fait traverser, il y a une grande émotion, une grande passion, un grand amour pour ce que nous vivons, nous ses frères. Et un tel amour doit aussi fondre notre cœur, ranimer notre cœur pour qu'on puisse nous donner entièrement à lui.